Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Donald Trump dévoile son plan de paix pour le Proche-Orient. Nous irons à Washington dans un instant. Le coronavirus a fait plus de 100 morts en Chine et la contagion s'accélère. Nous verrons comment Hong Kong essaye de se protéger. Nous ferons aussi un point sur les conséquences économiques de l'épidémie. À Paris, manifestation de pompiers contre la réforme des retraites. Il y a eu des incidents entre pompiers et policiers. Reportage de Valentin Dunat. Et puis un rapport parlementaire propose un lobbying plus responsable et transparent. Catherine Pétillon décryptera les propositions du vice-président de l'Assemblée, Sylvain Waserman. Après plus de 2 ans de travail et plusieurs reports, Donald Trump dévoile donc officiellement son plan de paix pour le Proche-Orient. Le président américain doit faire à l'instant une annonce solennelle depuis la Maison-Blanche en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il avait déjà donné beaucoup de gages aux Israéliens. Sa ligne n'a manifestement pas changé, Grégory Phillips.
Clairement non, vous savez, ce plan ultime, comme disent les Américains, Donald Trump va le présenter dans quelques minutes maintenant, depuis la East Room de la Maison Blanche, mais avec à ses côtés le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et pas les Palestiniens. Trump jure que c'est un très grand plan. Hier, quand il a reçu son ami Bibi, comme il l'appelle dans le bureau ovale, le président américain disait même que ça faisait des années que des gens travaillaient pour la paix au Proche-Orient et que là, on était tout près d'y arriver. Et puis vous avez aussi un président américain qui régulièrement, et notamment auprès de son électorat chrétien évangélique, se vante d'être le plus pro-Israël des présidents des États-Unis. Donc on verra bien ce que contient ce plan. On sait qu'il y a un volet économique déjà présenté au printemps dernier. L'idée, c'est de déverser sur les territoires palestiniens des milliards de dollars, environ 50 milliards d'investissements internationaux. Mais avec quelle contrepartie? Ça, on le saura tout à l'heure. Ce matin, la presse américaine, le New York Times notamment, croit savoir que ce plan prévoit la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur tout ou partie de la vallée du Jourdain. Attendons confirmation d'ici quelques minutes maintenant.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington. Et avant même l'annonce du plan de paix américain, plusieurs milliers de personnes ont protesté dans la ville de Gaza. Les manifestants ont brûlé des pneus, des drapeaux américains et des portraits de Donald Trump. Même scène à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Des rassemblements ont aussi été annoncés à Naplouse et Ramallah en Cisjordanie. Il affiche un grand sourire à Washington, mais Benjamin Netanyahou s'apprête à affronter la justice. Le premier ministre israélien a finalement renoncé à sa demande d'immunité parlementaire qui semblait vouée à l'échec. Il a été formellement mis en examen pour corruption et son procès devrait débuter dans quelques semaines après les élections législatives du 2 mars. L'épidémie de pneumonie virale a déjà fait au moins 106 morts, tous en Chine, et plus de 4500 personnes ont été contaminées, la plupart autour de Wuhan, dans le centre du pays. Mais les premiers cas de contamination entre humains ont aussi fait leur apparition hors de Chine. De nombreux pays et territoires renforcent donc les mesures de précaution. C'est le cas de Hong Kong qui vient d'annoncer de nouvelles fermetures de ses frontières. 8 personnes ayant contracté le virus en Chine sont actuellement hospitalisées à Hong Kong. On retrouve Florence de Changy sur place.
Le visage camouflé par un masque chirurgical, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a annoncé d'un ton grave, mardi en fin de journée, une série de nouvelles mesures pour lutter contre l'arrivée du virus de Wuhan à Hong Kong. À partir de jeudi à minuit, 6 des 14 points d'entrée entre la Chine et Hong Kong seront fermés. Les arrivées par train et par ferry seront interrompues, les arrivées par avion diminuées de moitié et le trafic routier considérablement réduit. D'autres mesures administratives devraient totalement stopper l'arrivée des touristes chinois. Les livraisons, notamment de nourriture, seront toutefois toujours autorisées. L'Association des médecins du secteur public a estimé ces mesures encore insuffisantes et elle menace de faire grève. Lundi, des professeurs d'épidémiologie de l'Université de Hong Kong ont estimé le nombre de personnes contaminées dans la seule ville de Wuhan de l'ordre de 44 000 et non de 3 000, comme l'affirment les autorités chinoises. Sur les 44 000, environ la moitié seraient des porteurs sains encore en période d'incubation. Toujours selon ces médecins, l'épidémie devrait connaître un pic en avril ou en mai avant de s'atténuer.
Florence de Changy à Hong Kong. La première préoccupation, c'est bien sûr de limiter les risques de contagion et de soigner les personnes contaminées. Mais les inquiétudes sont également financières. Le nouveau coronavirus fait déjà souffler un sérieux coup de froid sur les bourses mondiales. Et si l'épidémie dure, les conséquences économiques pourraient être majeures, Marie Viennot.
Oui, alors pour le moment, c'est en Chine que cette crise sanitaire pèse déjà sur l'économie. Première touchée, les compagnies de transport. En cette période de Nouvel An, des millions de Chinois rejoignent leurs familles. Beaucoup n'ont pas pu se déplacer et pour le train comme pour l'avion, la fréquentation est en baisse de 42%. Globalement, toutes les activités où se concentrent les gens habituellement ne fonctionnent plus normalement. Commerce, lieux touristiques et casinos de Macao qui font habituellement le plein en cette période de fête. Pour le secteur industriel, il y a aussi des conséquences. Des millions de travailleurs migrants déjà arrivés chez eux pour les vacances ne peuvent plus revenir sur leur lieu de travail. C'est le cas notamment dans le centre industriel de Suzhou où le retour des travailleurs migrants est retardé d'une semaine. Or, c'est l'un des plus grands centres manufacturiers au monde. Il fournit de très nombreuses marques étrangères, notamment Apple ou Samsung. Non loin de là, la capitale financière Shanghai a demandé aux entreprises de rester fermées jusqu'au 10 février. Difficile à ce stade de mesurer l'effet économique qu'auront toutes ces décisions. On s'attend à des difficultés aussi pour le secteur du tourisme et pour le luxe, car les Chinois représentent un tiers des achats dans ce domaine mondialement. Les Français sont particulièrement exposés et les valeurs en bourse de Kering, LVMH, Dior et Air France ont reculé hier. A l'inverse, la cote des entreprises pharmaceutiques chinoises et d'un fabricant malaisien de gants en plastique s'est envolée depuis la crise sanitaire. Les bourses mondiales, elles, se sont rétablies aujourd'hui après un net recul hier, mais elles peuvent paniquer encore si les nouvelles empirent. Dans une circulaire publiée aujourd'hui, la Commission de régulation des marchés financiers chinois a d'ailleurs appelé les marchés financiers à réagir rationnellement.
Marie Viennot, le gouvernement britannique donne son feu vert à une participation limitée du chinois Huawei au réseau 5G. La ministre du numérique, Nicky Morgan, explique vouloir le meilleur réseau possible, mais pas au détriment, dit-elle, de notre sécurité nationale. Mais cette autorisation, même partielle, mécontente les États-Unis qui se disent déçus. Le divorce entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne se rapproche. Le Parlement européen doit ratifier demain l'accord négocié par Bruxelles pour encadrer le Brexit. Et une cérémonie est prévue dans la foulée pour dire au revoir aux 73 députés britanniques élus en mai dernier. Sur ces 73 sièges, 46 seront réservés pour d'éventuels élargissements. Les 27 autres seront redistribués parmi 14 États membres, dont la France. Et 5 eurodéputés français sont en train de préparer leur arrivée, Anne Fauquemberg.
Oui, ils sont 5 à avoir été élus en mai dernier, mais à ne pas avoir pu siéger dans l'attente du Brexit. Ils ont d'ailleurs été appelés les eurodéputés congelés, deux élus LREM, un RN, une PS Place Publique et un Europe Écologie Les Verts. Et cet écolo, il s'appelle Claude Gruffa, 62 ans, responsable de deux magasins Biocoop à Blois. Il commençait à trouver le temps long.
J'ai été de temps en temps à Strasbourg, de temps en temps à Bruxelles pour comprendre un petit peu les rouages de cette grande maison européenne et connaître aussi un peu les gens du groupe des Verts européens, parce que je ne les connaissais pas, connaître un peu plus ceux de la délégation française, je ne les connaissais pas tous non plus avant les élections, et puis commencer à réfléchir sur oui les dossiers auxquels j'ai envie de contribuer, dans la commission agriculture par exemple, puisque c'est des dossiers d'enjeux que je connais le mieux aujourd'hui, et la commission agriculture étant celle que je souhaite intégrer quand j'arriverai au Parlement.
Ils sont impatients également, les deux eurodéputés de La République En Marche. Sandro Gozzi, 52 ans, ancien conseiller de Matignon, lui s'investira sur les questions de marché intérieur. Et Ilana Sicurel, 48 ans, cette avocate entre au Parlement européen pas vraiment tranquille.
Pendant ces quelques mois, je me suis imprégnée d'une forme d'avertissement que constitue le Brexit. Je pense que la leçon du Brexit, nous devons l'avoir sous les yeux, constamment dans notre engagement et dans notre action. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être à cheval entre deux commissions, la commission culture et éducation et la commission emploi, qui va évidemment s'occuper de Erasmus, qui est l'une des grandes promesses de l'Europe, l'une des grandes réussites de l'Europe, dont on espère multiplier le budget par deux ou par trois. Et surtout, ce qui est très important, on veut que cet Erasmus soit élargi aux apprentis notamment, c'est-à-dire que tous les jeunes Français puissent profiter de cette chance de pouvoir avoir une expérience en Europe.
Une Europe toutefois toujours en crise de confiance et comme un symbole au sein du futur Parlement dont les groupes sont en train d'être remaniés, les Français du Rassemblement National et ceux de la majorité Modem LREM seront à 24 à égalité donc. Le conseiller régional RN Jeanlin Lacapelle, 53 ans, vient ainsi gonfler les rangs de ses alliés d'identité et démocratie. bureaucratie. Cet ancien DRH veut s'investir dans la commission commerce international, celle qui s'occupe des grands accords de libre-échange comme le CETA. Mais pour l'instant, il met un soin tout particulier à recruter ses collaborateurs parlementaires.
J'ai reçu une douzaine de candidats. J'ai plutôt pris des collaborateurs. Un qui avait l'expérience du Parlement européen, donc qui avait déjà travaillé de près ou de loin. Deuxièmement, des gens qui ont des compétences en droit international. Ils sont trois et ils seront exclusivement dédiés aux missions qui seront les miennes et qui seront liées au Parlement européen. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Voilà, aucune ambiguïté parce que plusieurs élus RN, dont la présidente du parti, Marine Le Pen, sont en effet toujours poursuivis dans l'affaire des assistants parlementaires européens, ces collaborateurs payés par l'Europe mais qui n'ont fait que travailler pour leur parti en France. Les détournements de fonds publics s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une affaire qui empoisonne également le MoDem qui siège au sein du groupe Renaissance avec La République En Marche.
Merci Anne Fauquemberg. Et Nora Mebarek, 47 ans, collaboratrice politique, fera également son entrée au Parlement européen dans le groupe SED pour le PS Place Publique. L'UNICEF s'inquiète pour les enfants du Sahel. Cette année, près de 5 millions d'enfants au Burkina Faso, au Mali et au Niger auront besoin d'une aide humanitaire selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Maisons, écoles, structures sanitaires ont été bombardées. Des centaines de milliers d'enfants ont été tués, mutilés, contraints de fuir et rien n'annonce une diminution de la violence. L'UNICEF demande donc 208 millions de dollars pour faire face aux besoins humanitaires au Sahel en 2020, Nadine Epstein.
Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les attaques armées contre des écoles, des centres de santé, des infrastructures publiques, des institutions et des maisons n'ont jamais été aussi nombreuses et destructrices en 2019. En novembre 2019, plus d'1 200 000 personnes ont dû fuir, plus de la moitié étaient des enfants. Au Burkina Faso, en un an, le nombre de personnes déplacées a été multiplié par 5. Les pays du Sahel, ayant déjà les indicateurs de développement les plus faibles au monde, la recrudescence de la violence accroît la malnutrition, les privations d'eau potable, d'installations sanitaires et d'éducation. L'éducation est un défi majeur dans les pays touchés. Plus de 8 millions d'enfants âgés de 6 à 14 ans ne sont pas scolarisés. Ce chiffre représente près de 55% des enfants de cette tranche d'âge. Et la situation empire dans les trois pays où les attaques directes contre les écoles, les élèves et le personnel éducatif sont devenues régulières. Les enfants sont victimes d'enlèvements, d'abus sexuels et d'enrôlements. Plus d'un million d'enfants âgés de moins d'un an n'ont pas été enregistrés à la naissance, ce qui peut les priver d'accès aux soins et surtout les expose au recrutement dans les groupes armés. L'UNICEF estime que plus de 709 000 enfants âgés de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë sévère au Burkina Faso, au Mali et au Niger en 2020 et auront besoin de traitements vitaux. Elle chiffre à 208 millions de dollars la somme nécessaire aux besoins humanitaires au Sahel en 2020.
Des canons à eau pour disperser des pompiers. Venus de toute la France, des pompiers professionnels s'étaient retrouvés à Paris pour manifester contre la réforme des retraites et demander une hausse de salaire. Mais la manifestation a été émaillée d'incidents. Il y a même eu des échanges de coups entre des pompiers et des policiers. Le reportage de Valentin Dunat à Paris.
Des pompiers face à des policiers, cette scène a été constatée à plusieurs reprises aujourd'hui, notamment à quelques mètres de la place de la République où des coups ont été échangés. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement, ce que regrette Jérôme Sanfilippo, secrétaire adjoint de la Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers.
On est en colère et on ne cautionnera jamais les violences. Notre consigne, elle a été claire, aucune violence. Comme on le fait d'habitude, il y a des images qui ne sont pas forcément belles, mais de notre côté, on ne consomme pas les violences. Il faudrait que de la part des policiers avec qui on travaille au quotidien, qu'il y ait aussi cet excès de zèle et de violence à notre encontre.
Les pompiers très bruyants sont venus de toute la France pour demander à être entendus par le gouvernement, qui reste, selon eux, sourd à leurs revendications. Sébastien, pompier depuis 30 ans, est venu de Douai, dans le Nord.
Je n'ai jamais fait grève de ma vie. C'est la deuxième fois que je viens à Paris pour manifester. J'espère que les élus et le gouvernement en particulier va être à l'écoute de notre mobilisation.
Pour marquer le coup, des pompiers se sont symboliquement immolés par le feu. Certains sont en grève depuis 7 mois.
Et l'information qui vient de nous parvenir, l'intersyndicale a reçu des engagements écrits du ministère de l'Intérieur. Elle a donc décidé d'arrêter le mouvement de grève à partir du 1er février. 50 démissions au CHU de Rennes hier, 27 ce matin à l'hôpital Robert Debré à Paris. Les médecins et chefs de service mettent à exécution leur menace de ne plus assurer de fonctions administratives. Plus de réunions de gestion, plus de comptage des lits occupés, plus de transmission de résultats d'activité. Une désorganisation de l'hôpital qu'assume Céline Vigneault. Elle est chef de service en néphrologie à Rennes et démissionnaire.
Ça fait 15 ans qu'on travaille 12 à 14 heures par jour, que les infirmières reviennent sur leur repos, etc., pour essayer d'arranger les choses, et que, justement, nos gouvernements successifs, parce qu'évidemment, c'est pas que celui-là, hein, c'est tous ceux, font comme si de rien n'était, parce que ça marche, parce que, justement, l'hôpital marche, parce qu'on continue à soigner les malades. Hier, après la démission, tous les patients que j'ai vus en consultation m'en ont parlé et m'ont dit, mais on le voit, vous courez toute la journée, tous, de la secrétaire jusqu'au chef de service, on court tous. Et là, on peut plus, on court dans le mur. Et la décision de démissionner, ça n'a pas été une décision facile parce qu'effectivement, on voit bien, on fait pas grève, ou on fait grève une heure, etc. parce qu'on a ce scrupule de dire l'hôpital va aller encore plus mal si on n'est pas là. Mais d'abord, nul n'est indispensable. Et puis, ces tâches administratives, ce temps qu'on fera plus, on va le redonner aux patients. Et ça, c'est plutôt bien pour les patients. On va continuer à soigner les malades. L'hôpital, il va un peu moins bien fonctionner pendant un moment. Mais si la ministre nous entend et fait le même raisonnement, ben, elle va réagir et mettre des moyens nécessaires.
Céline Vigneault, interrogée par Céline Autain. Une journée d'action hôpital mort est à nouveau prévue le 14 février. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a réagi ce matin en rappelant le plan d'urgence déployé depuis novembre qui devrait, selon elle, avoir bientôt des effets concrets sur le quotidien du personnel hospitalier. Il propose 25 mesures pour rendre plus transparente l'action des lobbies auprès des députés. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Waserman, du MoDem, présente un rapport visant à clarifier le rôle des représentants d'intérêts. C'est aussi une façon d'assumer l'existence de ces relations, Catherine Pétillon.
Oui, pour un lobbying plus transparent et responsable, le titre de ce rapport en résume bien l'esprit. Il part du constat qu'il reste de nombreux progrès à faire pour avoir accès à l'impact réel des lobbies sur l'élaboration de la décision publique, c'est-à-dire au rôle joué par les fédérations professionnelles, les directeurs des affaires publiques d'entreprise, cabinets de conseil en lobbying ou encore les associations. Sylvain Waserman souhaite encourager la publication des agendas des politiques pour savoir qui rencontre qui, une idée à laquelle restent rétifs les élus. Le rapport propose de la rendre obligatoire, mais uniquement pour les rapporteurs de textes. Depuis la loi Sapin 2, les représentants d'intérêts doivent s'inscrire dans un registre géré par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Le rapport propose qu'ils y déclarent leurs activités davantage en temps réel, tous les trimestres au lieu de tous les ans, et suggère un renforcement des sanctions applicables afin de rendre public le nom de ceux qui manquent à leurs obligations, le name and shame. Mais l'intéressant dans ce rapport, c'est la logique dans laquelle il s'inscrit et la clarté assez inédite avec laquelle elle est formulée. Pas question ici de limiter ou d'encadrer le lobbying, mais de le rendre plus responsable et transparent. L'idée qui sous-tend toutes les propositions, c'est, je cite, que l'Assemblée nationale doit être l'artisan d'un nouveau rapport au lobby dans un contexte de co-construction de la décision avec les citoyens. Tant que c'est transparent, il n'y a pas de problème, explique le député. Une manière aussi d'assumer le rôle joué par les lobbies en l'institutionnalisant et de mettre sur un même plan intérêts privés et publics, une approche contestée par les associations engagées sur ces thématiques comme les Amis de la Terre ou Transparency International. Pour elles, la transparence est un prérequis, mais ne doit pas être utilisée comme une manière de justifier la place des intérêts privés dans les processus de décision.
Catherine Pétillon. La députée Paula Forteza annonce son départ de La République En Marche. Elle a décidé de suivre Cédric Villani, candidat dissident à l'élection municipale de Paris. La députée en profite pour dénoncer des problèmes de fond dans un mouvement politique qu'elle dit verrouillé et qui, selon elle, récompense les amitiés plus que les compétences. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Le cas de Paula Forteza n'est pas isolé. C'est la quatrième défection depuis le début du mois de janvier et un nouveau signal de mal-être chez les marcheurs.
En effet, Aurélie, ils sont nombreux dans l'aile gauche du mouvement à ne plus se sentir à leur place. Alors certains prennent leur distance, c'est le cas d'Annie Chapelier. D'autres se tournent vers les municipales sans obtenir l'investiture du parti. C'est le cas de Frédéric Lardet et de Valérie Petit. Toutes les trois viennent de quitter le mouvement, tout en restant apparentées au groupe à l'Assemblée. Ça ressemble à un début d'hémorragie, mais Laetitia Avia, porte-parole de La République En Marche, relativise.
des personnes en raison de déceptions personnelles, de batailles internes perdues, hein, puisque c'est ça le cas, décident de quitter un collectif. Et c'est là qu'on se pose la question de la colonne vertébrale. Le plus important, c'est de se dire que on a un collectif qui est là, hyper solide, et que bon, bah écoutez, on a ces cas qui sont des cas résiduels, mais ça ne nous empêche absolument pas d'avancer.
Tout irait bien dans le monde de La République En Marche, donc, mais Mathieu Orphelin, lui, n'est pas d'accord. Lui-même a claqué la porte du parti il y a un an, déçu de son évolution.
LREM devrait entendre ce que c'est que ces départs successifs de députés, souvent qui travaillent beaucoup, qui voulaient ce renouveau démocratique, cette promesse qu'on avait prise devant les Français en 2017. C'est, je crois, tout sauf une succession de personnes ambitieuses pour leur compte personnel, etc. Quand vous faites la liste des gens qui sont partis, vous voyez que c'est plutôt des gens qui ont toujours joué le jeu du collectif.
Et en 2 ans et demi, 12 députés ont quitté le groupe des Marcheurs, la plupart parce qu'ils désapprouvaient le fonctionnement du parti.
Diane Berger, demain mercredi, Météo France prévoit encore des averses à l'est et les massifs des Alpes du Sud sont placés en risque avalanche fort. Sur le reste du pays, une accalmie temporaire et de belles éclaircies sur le pourtour méditerranéen. Il fera entre 1 et 4 degrés demain matin sur le Grand Est, de 3 à 10 ailleurs. Les températures atteindront l'après-midi 6 à 13 degrés en général, jusqu'à 16 sur l'ouest de l'Aquitaine. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.